France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet campagne, bonjour. Ariège, tout aujourd'hui, ou presque, puisque l'Ariège est au centre de ces carnets avec une proposition d'aide aux jeunes ruraux, en particulier les 17-30 ans, qui ont des projets en tête, mais qui manquent de conseils et de soutien. Le centre Léo Lagrange et la communauté de communes Arize-et-Lèze profitent du Fonds national d'expérimentation de la jeunesse pour faire émerger des projets individuels et collectifs. Et puis, nous vous parlerons d'une solution de coordination pour les professionnels de santé et les auxiliaires de vie sociale qui accompagnent les personnes âgées ou malades à leur domicile. L'innovation s'appelle CIPAD. Elle est le premier dossier social partagé.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Michel Ouillet, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Je profite, comme vous êtes le coordinateur administratif du centre Léo Lagrange d'Arize-et-Lèze, chargé de la jeunesse, la petite enfance, et de saluer la fédération Léo Lagrange et ses 70 ans d'activité. Mais ces 70 ans de belle œuvre au profit des jeunes en France, vous portez un projet, la fabrique à projet de jeunes, c'est-à-dire que les jeunes, du côté de chez vous, dans ces communes, vous êtes dit, la jeunesse en milieu rural a plein d'envie. Il faudrait peut-être les valoriser.
C'est cela. Donc ça nous a été rendu possible par un appel à projet de l'INJEP, qui s'appelle le Fonds d'expérimentation de la jeunesse, et avec des projets en direction des jeunes qui vivent en milieu rural. Donc nous avons décidé au travers de ce projet de faire en sorte que nos jeunes puissent être acteurs du développement des territoires ruraux. Et ces expérimentations, si elles marchent, on est accompagné aussi par un groupe d'évaluateurs, Elles peuvent être généralisées au niveau national.
Ce qui est bien, c'est déjà la confrontation entre les jeunes et les élus, parce qu'on sait que les jeunes, la politique, c'est pas leur truc. J'espère qu'ils voteront un jour et qu'ils auront cet esprit civique de faire des choix importants pour leur avenir, mais c'est vraiment pas leur chose. Le dialogue élu-jeune doit être très intéressant.
Alors, effectivement, ça fait partie des trois axes de notre projet. Le premier axe, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est accompagner les jeunes dans leurs projets, qu'ils soient culturels, artistiques, événementiels ou économiques. Et le deuxième objectif est de favoriser la mise en place d'espaces de dialogue structurés entre jeunes et élus des territoires, et notamment par la mise en place d'assemblées libres de jeunes. Donc on essaie de réunir les jeunes que l'on a dans nos structures sur des thématiques, et ensuite on invite les élus à être présents, à pouvoir instaurer ce dialogue.
Oui. Alors vous vous adressez à des jeunes, Michel, dès l'âge de 11 ans?
Alors, on va préciser un peu. Donc, nous avons des espaces jeunesse sur notre territoire. Nous en avons deux, donc en direction des jeunes de 11 à 17 ans.
Oui.
Et la fabrique à projet de jeunes, elle vient juste après pour les 17-30 ans, les accompagner dans leurs projets, qu'ils soient individuels, collectifs, et tout type de projet. Donc, on prend le jeune avec son projet, son envie, et on essaye de l'accompagner pour qu'il puisse le réaliser.
Ça donne un collectif de jeunes rappeurs qui a pu promouvoir le territoire à travers ses créations.
Alors, on n'en est pas encore là, mais ils sont en train d'y travailler, d'y travailler dessus. Donc, l'idée, c'est de sortir un petit clip vidéo de valorisation de leur territoire. Donc, ça, c'est en cours. Mais avant cela, on les a quand même accompagnés sur les techniques de mixage, mais sur les droits intellectuels par rapport à leur création. Ils avaient besoin d'avoir quelques éléments. Et donc, on les a fait aussi rencontrer des professionnels des musiques actuelles. Donc, voilà notre accompagnement. Il va du côté juridique, sur le côté technique, mais également sur le volet artistique.
Ce qui est compliqué à mettre en place, c'est de trouver les bons interlocuteurs, sur les professionnels du secteur d'activité qui correspond au projet des jeunes.
Et bien, c'est là tout le travail de nos accompagnateurs de projet. Tout d'abord, ils ont réalisé des diagnostics au niveau du territoire pour aller récupérer toutes les bonnes adresses. Donc, nous avons un accompagnateur de projet de jeunes sur notre territoire, Arize-et-Lèze, un accompagnateur sur la communauté de communes, communauté d'agglomération de Fauvary, qui a les mêmes prérogatives. Et donc, leur travail avec la coordonnatrice départementale, c'est d'aller trouver les bonnes personnes aux bons endroits pour pouvoir accompagner, continuer d'accompagner à nos côtés ces jeunes dans leur projet de loisirs. Mais ça va jusqu'à également de la création d'activités économiques.
Vous avez un exemple à nous donner en termes d'activités économiques dans les projets des jeunes?
Mais nous avons une jeune Marion, qui a 24 ans, voilà, qui vient de se poser comme community manager sur notre territoire, au sein de l'hôtel d'entreprise de la communauté de communes Arizelaise. Et donc, toute nouvelle sur ce type d'activité, elle avait besoin de se faire connaître. Donc là, nous avons fait en sorte qu'elle puisse rencontrer des chefs d'entreprise, les élus du territoire, qui peuvent être aussi de bons conseils pour l'orienter vers des entreprises qui en auraient besoin. Donc son projet à Marion, c'est de pouvoir développer le commerce en ligne, notamment auprès des artisans locaux ou des petites entreprises locales.
Est-ce que c'est un dispositif qui va être renouvelé chaque année?
Alors, pour l'instant, nous avons les financements pour 3 ans. On est sur une phase d'expérimentation. Ce que l'on souhaite, c'est pouvoir faire connaître ce projet au plus grand nombre. Les élus ont beaucoup appuyé pour que ce projet voit le jour. Nous ne désespérons pas, au bout de 3 ans d'activité, en ayant fait preuve de l'utilité de ce projet, d'être suivi par le conseil départemental de l'Ariège, voilà, ou la région Occitanie, et pourquoi pas peut-être des idées au niveau national.
Il y a un site, c'est en enfance-jeunesse à Arizelaise. Alors, à Arizelaise, sont 2 communes qui ont fusionné, leolagrange.org. Merci Michel pour cette belle initiative.
Merci pour vos émissions et pour nous aider à donner un coup de main à nos projets.
France Inter, carnet de campagne.
La lettre de Paula a fait mouche. Il faut reconnaître que l'histoire qu'elle nous transmet est touchante et nous espérons, comme elle, qu'elle se poursuive encore longtemps. C'est l'histoire d'un petit artisan, comme elle l'écrit. Enfin, normalement, il n'y a ni grand ni petit, mais uniquement des savoir-faire et des mains en or. Nous sommes à la Bastide du Salat, en Ariège, dans le fabuleux atelier du Mouton des Pyrénées. Sur le site du dit Mouton, on peut lire la chose suivante. Les apparences sont parfois trompeuses. Sous ses allures sauvages et bucoliques, l'Ariège abrite les vestiges d'un incroyable passé industriel. Or, dans l'atelier, ce qui frappe au premier coup d'œil, ce sont les piles de peaux de moutons et des cuirs rigoureusement alignés sur les étagères. Le maître des lieux est David, qui crée des chapkas, des toques et des chaussons à partir de ces peaux de moutons. Évidemment, tout est fait main sur des machines pour ainsi dire uniques qui remontent aux origines de l'atelier ouvert par le grand-père de la compagne de David. Et pour la belle histoire, David a reçu en 2013 le prix du meilleur repreneur d'entreprise de l'Ariège. Et pour la moins belle histoire, notre artisan se bat pour sauver son activité en n'hésitant pas à travailler sur des chantiers de bâtiments pour financer le Mouton des Pyrénées. Paula conclut son courrier ainsi. Nous aimerions que notre région ne perde pas ses artisans les uns après les autres parce qu'ils ne peuvent pas concourir avec les produits fabriqués en Asie. Je vous invite à aller sur le site de l'atelier. Ce que fait David, c'est vraiment du grand art. L'adresse, c'est lemoutondespyrénées.com. Caroline Faure, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Caroline, vous nous annoncez une innovation qui permet de suivre les personnes, souvent des personnes malades ou âgées, qui veulent rester à domicile, sous forme très confidentielle, à travers un cahier numérique qui permet de suivre le parcours de chaque personne.
Tout à fait, oui, c'est exactement ça. C'est l'objet de la société, de la création de la société CIPAD et de l'ensemble des développements que l'on opère dans ce secteur-là.
Et vous avez pensé en particulier aux nombreuses personnes qui apportent un accompagnement à domicile et qui sont très souvent les interlocuteurs privilégiés de ces personnes.
Complètement. En fait, on est parti de l'idée que les intervenants à domicile, on les appelle souvent les auxiliaires de vie ou les aides-ménagères ou les aides-soignants qui interviennent à domicile, détiennent une multitude d'informations extrêmement intéressantes, extrêmement pertinentes dans le cadre de l'accompagnement des publics en perte d'autonomie et que le fait de pouvoir recueillir ces informations et leur donner des supports de valorisation des activités qu'elles réalisent au domicile, c'était une excellente façon finalement d'apporter davantage de suivi et de confort dans l'accompagnement de ces publics-là.
Oui, alors ça s'adresse aux aides à domicile, mais ça s'adresse aussi aux professionnels de santé?
Complètement. En fait, CIPAD, la solution donc de cahier de liaison numérique ou de dossier social partagé, puisque c'est un petit peu plus qu'un cahier de liaison, le cahier de liaison n'étant qu'une des fonctionnalités finalement de la solution, permet à partir des aides à domicile de recueillir un premier niveau d'information pour comprendre un petit peu comment va la personne, quel est son quotidien. Et l'idée, c'est de pouvoir tracer ses activités et la situation de la personne de façon à pouvoir derrière alimenter en information formation qualifiée des soignants lorsqu'ils interviennent. L'idée, c'est vraiment de créer un fil de coordination entre l'ensemble des acteurs du maintien à domicile et qui accompagnent les publics fragiles ou les personnes en situation de handicap dans leur maintien à domicile.
Oui, parce que très souvent, on est quand même sous une forme précaire de suivi, c'est-à-dire on prend note sur un carnet des aides apportées chaque jour aux personnes.
Ouais, complètement. Disons qu'aujourd'hui, c'est encore l'état de l'art. Majoritairement, les structures de services à la personne utilisent des cahiers papier, ce qui pose deux problématiques principales. La première, c'est comment on sécurise ces informations, parce que dedans, il y a des informations sensibles. Puis le domicile, c'est un lieu de passage, finalement, de tout un tas d'intervenants, de professionnels, de proches. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'on en fait? Ça reste très indiscret, donc ça pose toutes les questions de respect, finalement, du règlement général de la protection des données, le RGPD. Et puis en même temps, c'est de la donnée morte, puisque une fois qu'elle est écrite, on referme le cahier peut se perdre, le cahier peut être terminé, le professionnel qui passe derrière va pas forcément lire ce qu'il y a dedans, et donc finalement on passe à côté d'une information extrêmement importante, ce qui entraîne des doublons d'intervention ou des non-prises en compte de fragilité spécifique.
Et comment se présente alors ce dossier social partagé?
Alors en fait, c'est une application mobile. Le cahier de liaison donc est rattaché au dossier social de la personne, et le dossier social de la personne accompagnée, c'est quelque chose qui lui appartient, qui va pouvoir après l'accompagner dans son parcours de vie et son parcours de soins, qui va à la fois permettre de tracer l'ensemble des activités réalisées par l'intervenant à domicile pour le compte de la personne accompagnée, mais également de recueillir un certain nombre d'informations qualifiées. Par exemple, est-ce que le sommeil de la personne est bon en ce moment ou est-ce qu'il est perturbé? Est-ce que elle souffre de malnutrition? Est-ce qu'elle a du mal dans ses déplacements ou est-ce que son autonomie est perturbée d'une façon ou d'une autre? L'idée, c'est déjà de commencer à analyser finalement ce qu'est l'autonomie pour être capable d'en déceler des signes d'aggravation ou d'amélioration.
Mais ça implique quand même une connaissance, une pratique d'utilisation de cette application de la part des personnes qui font de l'accompagnement à domicile. Il y a une formation chez vous?
Oui. Alors, CIPAD, on est à la fois un éditeur de logiciels, de solutions numériques, mais on est également organisme de formation certifié Calliope. Donc, on forme à l'ensemble des métiers du domicile, à la fois à l'usage de notre solution, mais pas que. On forme également à tous les métiers, finalement, toutes les compétences métiers attendues par les auxiliaires de vie, les aides-soignants ou les professionnels de l'adaptation du domicile, par exemple. L'idée, c'était d'avoir une offre vraiment 360.
Et comment vous vous faites connaître auprès du public concerné?
Alors, on travaille beaucoup avec les fédérations professionnelles de ce secteur-là, puisqu'il y a le secteur des services à la personne est organisé en fédération. Et puis après, on adresse aussi des grands réseaux. On peut parler de réseaux que les gens connaissent bien, la DMR par exemple, le réseau UNA ou des réseaux privés de structures d'aide et d'accompagnement à domicile. Et l'idée pour nous, c'est à la fois d'équiper ces grands réseaux, mais également d'aller équiper les petites structures indépendantes, parce qu'on a un secteur d'activité qui est aussi beaucoup composé de petites associations locales ou de petites entreprises locales.
Ouais.
Donc il y a à la fois du travail, on va dire, en amont sur les grands réseaux existants, et puis un travail plus de terrain où là on va rencontrer les acteurs de terrain pour leur proposer la solution.
Et évidemment, le but ultime est de maintenir ces personnes à domicile le plus longtemps possible en toute sécurité. CIPAD.com pour l'adresse. Merci Caroline.
Merci à vous Philippe Bertrand, très bonne journée.
Tenez, on termine ce tour ariégeois avec Lucie qui a quitté Lyon pour s'installer en Ariège avec sa petite famille. Bien qu'autodidacte en couture, c'est la naissance de son premier enfant en 2015 qui la porte à imaginer la création de sa propre ligne de vêtements. Et c'est en 2020 que la reconversion se concrétise avec les autonomes, on s'écrit avec un Z et un O, autonomes, des vêtements non genrés, confortables, taillés dans des chutes de tissu en matière naturelle. Aujourd'hui, la petite entreprise de Lucie est associée à plusieurs industriels qui lui fournissent les tissus provenant de chutes ou de rouleaux qui comportent des défauts. Son objectif est le zéro déchet en fin de parcours de fabrication. L'adresse, c'est lesautonomes.fr. Merci à Joël Levert qui a porté du contenu au carnet cette semaine. Merci aux techniciens et techniciennes de France Inter qui leur donnaient du volume. Et merci en l'occurrence aujourd'hui à Gilles Gaillard.